6h40, c'est l'heure du Journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, selon un rapport diffusé par le Center for Global Policy, un demi-million de Ouïghours sont soumis au travail forcé pour la récolte du coton dans le Xinjiang.
Oui, des révélations qui interviennent alors que la Cour pénale internationale vient de se déclarer incompétente pour les accusations de crimes contre l'humanité et de génocide portés par des Ouïghours en exil, la Chine n'étant pas signataire du traité de Rome qui a institué la CPI. Courrier international rappelle que plus de 20% du coton produit dans le monde vient de cette province, soit 84% du coton produit en Chine, et que le gouvernement américain en a interdit l'importation alors que la Chine fournit un tiers des vêtements en coton vendus aux États-Unis. Au Congrès, trois projets de loi visent le travail forcé des Ouïghours, mais l'intense lobbying de certaines entreprises les a jusqu'ici repoussés. Nike et Coca-Cola notamment, mais aussi Apple, avance que cette législation pourrait provoquer des ravages dans leur chaîne d'approvisionnement. L'anthropologue allemand Adrian Zenz est l'auteur de ce rapport. Il enquête depuis des années et fait l'objet d'une violente campagne de diffamation du régime chinois. Libération a suivi son travail de fourmi pour faire parler les sources. Exemple, les appels d'offres pour la construction des camps repérés dans un océan d'informations. La dernière livraison de la revue Esprit consacre un dossier complet à l'empire du milieu. Judith Geng et Mei Yang font le point sur la politique de sinisation qui vise également les Tibétains et les Mongols. Les méthodes d'assimilation forcée se généralisent, conduisant à des formes de génocide culturel. Les langues traditionnelles, mais aussi les pratiques religieuses, le style architectural des mosquées, des temples, rien n'est épargné. On a même pu voir des moines taoïstes et bouddhistes en uniforme de soldats chantant des chansons révolutionnaires devant le portrait de Xi Jinping. Les journalistes soulignent que, outre le million de Ouïghours internés dans des camps sans la moindre poursuite judiciaire, c'est l'élite et notamment les intellectuels qui est visée. Abdulkerim Rahman, professeur à l'université de Xinjiang, spécialiste de la littérature ouïghour, a passé un an dans l'un de ses camps et il est mort en août 2020, peu de temps après sa sortie. Tashpolat Tiyip, ancien président de l'université, a été condamné à la peine capitale en 2018 et on ne sait pas aujourd'hui s'il est mort ou vivant. Une situation qui ne fait qu'alimenter le courant indépendantiste chez les Ouïghours comme chez les Tibétains. Dans ce numéro de la revue Esprit, Justine Rochaud retrace la chronologie précise de la pandémie Covid en décrivant les failles du système, le déni initial et les dissimulations du régime. Et elle souligne ce paradoxe, les facteurs qui ont contribué au manque d'anticipation de l'État, politisation de la santé publique, structure bureaucratique, sont également ceux qui ont permis de réagir une fois l'épidémie reconnue. Elle cite notamment le cas de l'armée qui a dépêché près de 4000 médecins à Wuhan, munis d'équipements médicaux, ou encore les communautés de quartier pour appliquer les consignes de confinement, organisant les livraisons de repas et de médicaments, un outil efficace et parfois effrayant de contrôle social. L'hebdomadaire Le 1 fait escale à Wuhan, la métropole globalisée avec son hub aérien, ses lignes internationales, sa gare TGV, sa sidérurgie lourde, son industrie automobile et ses universités, ses centres de recherche en biologie, son marché aux animaux sauvages. La ville a effacé toutes les traces qui auraient pu permettre de comprendre l'origine de l'épidémie dont elle a été l'épicentre, affirme François Godement. Le mystère est renforcé par le refus réitéré de Pékin d'accepter que les experts de l'OMS s'y rendent pour enquêter. Le pouvoir chinois a maintenu jusqu'au 20 janvier qu'il n'y avait pas de preuve de la transmission du virus de l'animal à l'être humain, ce qui est stupéfiant, affirme François Godement. Et l'OMS a fait semblant de le croire, ce qui est pire. L'historien et spécialiste de la Chine relève que l'interdiction des liaisons aériennes intérieures à partir de Wuhan a eu lieu avant celle des vols à destination de l'étranger. Et il souligne ce paradoxe. La Chine, premier pays frappé par l'épidémie, est la seule puissance économique à finir l'année 2020 avec un taux de croissance positif. C'est que le modèle chinois est l'inverse d'une autre, explique-t-il. Nous avons soutenu la demande, eux soutiennent l'offre. Donc la reprise chinoise a été tirée par la demande étrangère, puisque nous avons toujours les moyens d'acheter grâce aux injections de liquidités massives aux États-Unis et en Europe et au plan de relance.